Les sept, c'est Nicolas. Nicolas est un prosélyte d'Antioche. Il a été choisi pour être serviteur par l'Église à Jérusalem. Mais on pense que plus tard, il a formé un mouvement qui s'appelle la Nicolaïte, un mouvement qui était un peu en opposition avec les églises, parce qu'il avait toujours un pied dans l'idolâtrie. Prostitution, viande sacrifiée aux idoles, etc. Ça, c'est mentionné dans l'Apocalypse. Lisons les versets 9 et 10. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Il y a deux groupes de personnes qui sont mentionnées. D'abord, il y a ceux qui sont de la synagogue. La synagogue des affranchis, c'est des esclaves qui ont été libérés. Les Cyrénéens, Cyrène, c'est... Vous savez quelle est la région de la Cyrène? Avec C, hein, pas avec S. Hein. Comment? Copenhague, non, c'est pas du côté de Copenhague. C'est un peu plus chaud. C'est au nord de l'Afrique, je pense, vers la Libye aujourd'hui. Et il y a aussi les Alexandrins, donc qui viennent d'Alexandrie, en Égypte. Probablement qu'il y avait beaucoup d'hellénistes qui participaient à ces synagogues. On parle de synagogues de personnes qui viennent de l'extérieur de Jérusalem. Peut-être que Étienne a aussi enseigné dans ces synagogues. On ne sait pas pourquoi ces synagogues sont en train d'accuser Étienne, mais probablement ils ont entendu l'enseignement d'Étienne. Le deuxième groupe, c'était des Juifs. Mais des Juifs qui viennent de la Cilicie, donc région d'où vient probablement Étienne et aussi Paul, vers Tarse, par là, et à côté, dans l'Asie. Je pense qu'il y avait toujours quelques tensions entre les hellénistes et les Juifs. Ceux qui parlaient grec, ceux qui parlaient araméen, ceux qui suivaient plus ou moins la loi et ceux qui suivaient toute la loi, à la virgule près. Ce qui est un peu bizarre ici, c'est que les accusateurs ne sont pas des Juifs de Jérusalem. Donc peut-être que le travail d'Étienne était surtout avec des personnes qui venaient de en dehors de la Judée et de Jérusalem. Il dit au verset 10 qu'il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Ces personnes ne discutaient pas simplement avec Étienne. Ces personnes discutaient avec le Saint-Esprit. Étienne était simplement l'outil de Dieu. Lorsque Jésus envoie les douze en mission, il leur dit en Matthieu 10, « Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Et je pense que c'était le cas d'Étienne. Ça me fait penser aussi à Jésus, qui était dans le temple à 12 ans, et qui enseignait, qui répondait aux questions, et il dit que ceux qui étaient là étaient frappés par son intelligence et ses réponses. Il enseignait comme quelqu'un qui avait de l'autorité. On verra qu'il y a plusieurs parallèles entre Jésus et Étienne dans ce passage. Donc, il saisit Étienne. Il emmène devant le Sanhédrin, donc le grand conseil des Juifs, et il y a de faux témoins qui l'accusent. D'abord, ils vont accuser sa personne même en disant « Étienne blasphème contre Moïse, donc contre Dieu. » Mais deuxièmement, ils vont surtout accuser son enseignement. Il profane des paroles contre le temple et contre la loi de Moïse. Autrement dit, c'est un helléniste qui s'attaque au fondement de la nation d'Israël. C'est important de retenir ces deux accusations. Donc, l'accusation contre contre la loi et contre le temple. On verra dans la défense d'Étienne pourquoi est-ce qu'il mène sa défense par rapport à cela. Lisons le verset 15. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Donc les accusations sont données. Tous maintenant se tournent vers Étienne pour entendre sa défense. Étienne qui a blasphémé contre Moïse. Et son visage parut comme celui d'un ange. Qui peut me décrire le visage d'un ange ? À quoi ressemble le visage d'un ange ?
Daniel 2.
Oui, qu'est-ce qu'il dit ?
Resplendissant comme le soleil.
Resplendissant comme le soleil, ok. Rayonnant. En Matthieu 28, après la résurrection de Jésus, il y avait un ange qui était assis sur la pierre et il dit que son aspect était comme l'éclair. Donc, rayonnant comme le soleil, comme l'éclair, quelque chose de lumineux. Et c'est sûr qu'on peut penser tout de suite à Moïse, qui avait aussi le visage rayonnant lorsqu'il a parlé avec Dieu. On voit le lien, les paroles d'Étienne sont inspirées de Dieu, comme le furent celles de Moïse. Je pense qu'il y a là tout un symbole quand il a le visage qui apparaît comme un ange. En tout cas, c'est sûr que Étienne a toute leur attention et il va commencer sa défense. Lisons chapitre 7, verset 2. Étienne répondit, « Homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan. » Il commence par dire « Homme, frère et père, écoutez. » Étienne s'adresse au Sanhédrin. Il s'adresse à ses accusateurs, qui le prennent pour un hérétique, en s'identifiant avec eux, en tant que bon israélite, avec beaucoup de respect vis-à-vis du grand conseil, de l'autorité, père, et vis-à-vis de ses frères, qui sont les Israélites. Il ne commence pas tout de suite à parler de Moïse, bien que les accusations, c'est qu'il est en train de parler contre Moïse. Mais il va au-delà de Moïse, donc avant Moïse, et il parle d'Abraham, et il dit bien « notre père ». Il s'identifie avec eux. « Notre père Abraham ». Pourquoi commencer avec Abraham et pas par Moïse ? Est-ce que vous voyez une raison à cela ?
C'est à lui que la descendance a été promise.
Quelle descendance ? Il y a d'abord sa descendance à lui, et ensuite il y a toutes les nations. Donc il y a une promesse éternelle pour tout le monde. Tout le monde sera béni par la venue du Messie. Ça, c'est la promesse à Abraham, pas une promesse à Moïse. On peut dire que Étienne remet un peu plus en place le plan de Dieu pour son peuple. Quelle est la place de la loi de Moïse, la place du temple dans le grand plan de Dieu pour l'homme ? C'est du temporaire.
C'est important. C'est du temporaire. Ça, c'est du temporaire. La promesse à Abraham, c'est éternel. La promesse de ce qui vient de la loi et de Moïse, ça va disparaître. C'est du temporaire. Le temple aussi, c'est du temporaire. Et je pense que c'est peut-être ça le centre des accusations contre Étienne. Il est en train de parler contre des choses qui vont disparaître. Parler de choses qui vont disparaître.
des choses temporaires. Étienne parle ensuite des patriarches. Il parle de, toujours avant Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, les 12 patriarches. Il parle de la circoncision, toujours avant Moïse. Et tout ça, c'est le symbole de ce qu'est un vrai Israélite. Ensuite, Étienne parle de Joseph. Pourquoi Joseph? Joseph est rejeté par ses frères. Et Dieu est avec lui. Il devient le sauveur du peuple d'Israël. Ils allaient mourir de famine, de la famine, s'il n'avait pas été là. Être rejeté par ses frères et être le sauveur, là aussi on a un thème qui est récurrent, qui revient avec la défense d'Étienne. Ensuite seulement, Étienne va parler de Moïse, au verset 27. Qui t'a établi chef et juge sur nous? C'était ses frères qui l'accusaient. Ses frères ont d'abord rejeté Moïse. Pourquoi c'est toi le chef? Et ensuite, Moïse est devenu un libérateur du peuple. Lisons les versets 35 à 37. Chapitre 7, 35 à 37. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi. » Étienne leur raconte l'histoire d'Israël d'une manière précise, résumée. Ils n'ont rien à contredire par rapport à cela. Ils ont renié Moïse, celui qui est devenu leur libérateur. Et au verset 37, il dit « Dieu vous enverra un autre prophète. » Celui-là, il faudra l'écouter. Étienne parle de qui ? Jésus. Eux, ils pensent qu'ils parlent de qui? On ne sait pas exactement, mais peut-être d'Élie, peut-être d'un autre prophète, peut-être de Jean-Baptiste, on ne sait pas. Encore une fois, le peuple rejette les paroles de Moïse, l'envoyé de Dieu, et il se lance dans l'idolâtrie avec le veau d'or. Donc on peut dire que Étienne est en train de parler pour Moïse. Il est accusé de parler contre Moïse, et là il est en train de dire « Moïse a fait beaucoup de grandes choses. Moïse était un libérateur du peuple. » Lisons maintenant le verset 44. « Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage. » Comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Qui a demandé la construction du tabernacle? C'est Dieu. Étienne répond à leur deuxième accusation, parler contre le lieu saint. Quand ils disent parler contre le lieu saint, ils pensent au temple. Étienne le rappelle, attention, le tabernacle, c'était avant le temple. Le tabernacle a été établi 400 ans avant le temple. Le temple n'était pas établi sous Moïse, mais sous Salomon. Qui est-ce qui a demandé la construction du temple?
Dieu.
David. C'est David qui a demandé. À Dieu, j'aimerais te construire une maison. Lisons maintenant versets 48 à 50. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? C'est une prophétie d'Ésaïe. Jusque-là, on peut dire qu'ils écoutent patiemment ce qu'Étienne est en train de dire. Il résume l'histoire du peuple de Dieu. Il parle de Moïse. Il parle du temple, toujours en bon israélite. Mais maintenant, il commence à se lancer dans la source de ses accusations. Quelle est l'importance du temple ? C'est un bâtiment. Quelle est son importance par rapport au créateur de l'univers ? Qu'est-ce qu'un bâtiment pour celui qui a créé tout l'univers ? C'est rien. Et c'est du temporaire. C'est l'occasion de parler du Dieu qui habite dans son peuple, qui n'habite pas juste dans un bâtiment. Il habite dans son peuple par son Saint-Esprit. Mais je pense qu'Étienne doit se rendre compte qu'il n'a pas beaucoup de temps pour aller plus loin dans sa défense. Ses propos concernant le temple est quelque chose qui va subsister bien au-delà. Ont probablement piqué au vif tous ces juifs. Ils commencent à s'énerver. Maintenant, c'est Étienne qui va se transformer en accusateur. Dieu leur a envoyé à maintes fois des prophètes, et eux, ils les ont persécutés, ils les ont rejetés, ils les ont même tués. Lisons les versets 51 à 53. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et que vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Vous êtes pareil que vos pères. Ce n'est plus nos pères. Là, c'est vos pères. Vous êtes têtus. Vous ne valez pas mieux que les païens. Grande insulte pour les juifs. Vous ne gardez pas les commandements de Dieu. Vous m'accusez, moi, de parler contre la loi de Moïse, et vous ne gardez pas les commandements de Dieu. Et vous êtes des meurtriers. Étienne les attaque droit au cœur. Et il va très fort. Peut-être qu'il se dit que c'est la seule possibilité encore de toucher quelques-uns de ceux qui l'écoutent. Il faut qu'il aille directement au bout parce qu'il sait que ça va être très vite trop tard. Il y a deux expressions qui me rendent un peu perplexe dans ce passage. D'abord, il dit « Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit ». Pourquoi il ne dit pas « Vous vous opposez à Dieu » ? Qu'est-ce que les Juifs savent du Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit représente les paroles de Dieu. Vous n'obéissez pas aux paroles venant de Dieu par ses intermédiaires, dont le Saint-Esprit. Deuxièmement, il faut entrer dans la nouvelle ère. Et les Juifs, vous êtes dépassés ? Le Saint-Esprit est déjà venu. Vous parlez de la loi, du temple, c'est des choses temporaires. Vous êtes en train de passer à côté. La nouvelle réalité a commencé avec le Saint-Esprit. Ensuite, il parle du juste. Pourquoi ne pas dire Jésus ? Pourquoi l'appeler le juste sans le nommer ? Pierre avait aussi parlé dans sa prédication, du saint et du juste. Et ce juste, c'est eux qui l'ont mis à mort. Ils ont tué un innocent, un prophète qui était envoyé par Dieu. J'aimerais lire maintenant les derniers versets de ce chapitre 7. Pour moi, c'est un passage extraordinaire, un peu irréel, un peu fantastique, on peut dire. Lisons les versets 54 à 60. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. et y grinçait des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et qui disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Étienne sait qu'il va mourir. Il l'accepte. Il est rempli du Saint-Esprit qui le console, qui l'encourage. Il regarde vers le ciel et il voit la gloire de Dieu. Et il voit Jésus debout à la droite de Dieu. C'est fabuleux comme vision. Un homme peut voir le ciel. Est-ce que vous vous rappelez de ce que Paul ou Saul a vu sur la route de Damas? Qu'est-ce que Saul a vu? Une grande lumière. Il a entendu une voix. C'est tout. En fin de compte, Paul n'a pas vu grand-chose. Si on le compare à Étienne qui voit Jésus et qui voit la gloire de Dieu. Étienne a commencé son discours en disant « Ce Dieu de gloire apparut à notre père Abraham. » Et ici, il vit la gloire de Dieu. On peut dire qu'il a la même considération qu'Abraham. La grande différence entre ce que Étienne peut voir et ce que Paul peut voir, ou seul, c'est que Étienne est saint. Il est sans péché. Il est rempli de l'esprit. Et Paul, c'est un des pires des pécheurs. Il était plein de péchés au moment qu'il a eu sa vision. À quoi ressemble la gloire de Dieu? Je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un peut définir la gloire de Dieu, à quoi ça ressemble. Je dirais que c'est inexprimable. C'est à couper le souffle. Étienne dit qu'il voit les cieux ouverts. Il voit le ciel, mais à part Jésus, il n'arrive pas vraiment à le décrire. Personne d'autre a eu une telle vision du ciel, à part, on peut dire, l'apôtre Jean, quand il écrit l'Apocalypse. Il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui parlent de Jésus assis à la droite de Dieu. Assis à la droite de Dieu. Après sa résurrection et son ascension. L'apôtre Jean le voit aussi assis sur son trône. Mais pour Étienne, qui est le premier martyr de l'Église du Christ, Jésus est debout à la droite de Dieu. Pourquoi il est debout? Je pense qu'il est debout pour montrer son approbation pour Étienne. Il se lève exprès pour montrer à Étienne, c'est bien ce que tu fais. Étienne est prêt à mourir pour Jésus et pour le dessein de Dieu pour l'humanité. Il est un homme plein de foi, approuvé de Jésus. Et en voyant Jésus, Étienne repense à toutes les souffrances que Jésus a subies sur la croix. Il pense aux paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Étienne veut suivre son exemple. Et il prie, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Jésus s'est adressé à son Père, et Étienne s'adresse directement à Jésus qui voit. Puis il crie d'une voix forte, « Père, pardonne-leur !» Voilà quelqu'un qui suit vraiment l'exemple de Jésus, de son maître. En lapidant Étienne, les responsables juifs ont désobéi à la loi romaine. Ils n'avaient pas le droit de mettre à mort quelqu'un. Et comme il n'y avait pas vraiment eu un vrai procès de la part des juifs, on peut dire aussi qu'ils ont fait semblant de suivre la loi juive. Ils l'amènent en dehors de la ville, ça c'est selon la loi. C'est les témoins qui lancent les premières pierres, c'est selon la loi. Mais pour le reste, ce n'était pas vraiment selon la loi. Le fait qu'ils confient leurs vêtements à Paul montre que Paul donnait une certaine direction à ce qui se faisait. Paul ne lance pas lui-même des pierres, mais le fait que le témoin lui confie ses habits, probablement il était de mèche avec ses témoins. On peut se demander si Étienne a eu une quelconque impression sur Saul à ce moment-là et sur sa conversion par la suite. Les paroles d'Étienne devant la mort, est-ce que ça fait réfléchir? Il est accusé, il est en train d'être lapidé, et il dit « Père, pardonne-leur ». J'aimerais terminer ce matin avec ce passage de Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Le prénom Étienne, ou Stéphanos en grec, signifie couronné, comme une couronne de victoire. Étienne a eu sa couronne. Il a montré sa fidélité jusqu'à la mort. Nous n'avons pas vu grand-chose de la vie d'Étienne. On ne sait pas trop ce qu'il a fait d'autre, à part des grands prodiges, à part servir aux tables. Mais on peut dire que sa mort est une étape charnière dans le plan de Dieu et dans toute l'évangélisation de la planète par la suite. Étienne a été fidèle jusqu'à la mort et il a eu sa couronne. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur ce passage ?